Vous avez eu l'amabilité de me dire que vous étiez viennois et que vous connaissiez le nom que je porte. Cependant, je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père, d'abord, puis tout seul. Car nous ne défendions pas de causes éclatantes, de celles dont on parle dans les journaux, et nous ne cherchions pas à augmenter notre clientèle. En réalité, nous ne pratiquions plus le barreau à proprement parler. Nous nous bornions à être des conseillers juridiques et à administrer les biens des grands couvents avec lesquels mon père, ancien député du parti clérical, avait des relations étroites. En outre, je puis vous le dire sans indiscrétion, puisque la monarchie a vécu aujourd'hui, quelques membres de la famille impériale nous avaient confié la gérance de leur fortune. Ces liens avec la cour et le clergé dataient de deux générations déjà. Un de mes oncles était médecin de l'empereur, un autre abbé, à Seyntenstetten. Nous n'avions qu'à les maintenir. C'était là une activité tranquille et en quelque sorte muette qui nous était déchue par voie d'héritage et qui ne demandait pour nous être conservée qu'une extrême discrétion et une honnêteté éprouvée, deux qualités que feu mon père possédait au plus haut degré. Il réussit en effet à garder à ses clients une partie considérable de leur fortune malgré l'inflation et la révolution. Lorsqu'Hitler arriva au pouvoir en Allemagne et qu'il se mit à dépouiller l'église et les couvents, diverses transactions et négociations se firent par notre moyen, de l'autre côté de la frontière, pour éviter au moins la saisie des biens mobiliers de nos clients. À ce moment-là, nous en savions plus, mon père et moi, sur la politique secrète de Rome et de la maison impériale, que le public n'en apprendra jamais. Mais, précisément, le caractère discret de notre bureau, il n'y avait même pas de plaque à notre porte, et la prudence avec laquelle nous évitions ostensiblement les milieux monarchistes paraissait nous mettre à l'abri des enquêtes importunes. Le fait est qu'aucune autorité en Autriche ne se douta jamais alors que le courrier secret de la maison impériale passait presque tout entier par l'insignifiante étude que nous avions au quatrième étage d'une maison. Or, les nationaux socialistes, bien avant de lancer leurs armées contre le monde, avaient organisé dans tous les pays voisins une autre légion, aussi dangereuse et bien entraînée, celle des aigris et des mécontents, qu'on trouve sous n'importe quel régime politique, qui s'insinuaient dans chaque bureau, dans chaque entreprise, et avaient leur poste d'espionnage jusque dans le cabinet particulier de Dollfuss ou de Schunschnigg. J'appris, hélas, trop tard, qu'ils avaient leur homme aussi dans notre petite étude. Ce n'était à vrai dire qu'un pitoyable commis que nous avions engagé sur la recommandation d'un curé pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire ordinaire. Nous ne lui confions rien d'autre que des courses inoffensives, le soin de répondre au téléphone et celui de ranger des actes insignifiants. Il n'était pas autorisé à ouvrir le courrier. J'écrivais moi-même à la machine toutes les lettres importantes sans en laisser copie au bureau. J'emportais chez moi les documents de valeur et donnais mes consultations secrètes au prieuré du couvent ou chez mon oncle. Grâce à ces précautions, il n'y avait rien d'intéressant à épier au bureau. Il fallut un hasard malheureux pour que l'ambitieux individu s'aperçût qu'on se méfiait de lui et que tout se passait derrière son dos. Peut-être, en mon absence, un messager imprudent a-t-il parlé de « Sa Majesté » au lieu de l'appeler le baron Bern, comme il était convenu. Ou bien le grenin a-t-il ouvert des lettres, contrairement aux ordres reçus. Toujours est-il que Munich ou Berlin le chargea de nous surveiller avant que j'en eusse le moindre soupçon. Ce n'est que beaucoup plus tard, et après avoir été arrêté, que je me rappelai le zèle subit dont il avait fait preuve dans les derniers temps de son service chez nous et l'instance avec laquelle il m'offrait de mettre mon courrier à la poste. Il y eut de ma part une certaine imprévoyance, je l'avoue, mais combien de diplomates et d'officiers n'ont-ils pas été trompés par la perfidie de cette clique ? J'eus bientôt une preuve tangible de l'attention que me vouait depuis longtemps la Gestapo. Le soir même où Schuschnigg donnait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais arrêté par des hommes de la SS. J'avais, par bonheur, brûlé les papiers les plus importants. Sitôt après avoir entendu le discours d'adieu de Schuschnigg et une minute avant que les sbires ne frappent à la porte expédiée à mon oncle dans une corbeille de linge par l'intermédiaire de ma vieille et fidèle gouvernante, tous les papiers nécessaires à la reconnaissance des titres que son couvent et deux archiducs possédaient à l'étranger. Monsieur B. interrompit son récit pour allumer un cigare. La vive lueur de la flamme éclaira sa bouche. Un tic nerveux qui m'avait déjà frappé auparavant en tordait le coin droit. Ce n'était qu'un mouvement fugitif à peine perceptible, mais il donnait à tout son visage une expression étrangement inquiète. Vous vous figurez sans doute que je vais maintenant vous parler d'un de ces camps de concentration où furent conduits tant d'Autrichiens qui voulaient rester fidèles à leur pays, et que je vais vous décrire toutes les humiliations et les tortures qu'on y souffrait. Mais il ne m'arriva rien de pareil. Je fus classé dans une autre catégorie. On ne me mit pas avec ces malheureux sur lesquels on se vengeait d'un long ressentiment par des humiliations physiques et psychiques, mais dans cet autre groupe moins nombreux, dont les nationaux socialistes espéraient tirer de l'argent ou des renseignements importants. Ma modeste personne ne présentait en elle-même aucun intérêt pour la Gestapo. On devait avoir appris cependant que nous étions les administrateurs et les hommes de confiance des adversaires les plus acharnés du parti, et ce que l'on espérait obtenir de moi, c'était des renseignements. Des renseignements qu'on tournerait en preuves accablantes contre les couvents pour justifier l'accaparement de leurs biens et dont on se servirait aussi contre la maison impériale et contre tous les monarchistes fidèles. On se disait non sans raison que les fortunes passées entre nos mains avaient dû laisser de respectables restes dans quelque endroit inaccessible. Aussi, on m'arrêta dès le premier jour pour tenter de me faire parler au moyen des méthodes dont on connaissait les excellents résultats. Les gens de cette catégorie n'étaient pas mis en camp de concentration. On leur réservait un sort spécial. Vous vous souvenez peut-être que si notre chancelier ni le baron Rothschild ne furent enfermés derrière les fils de fer barbelés, mais qu'on leur fit l'apparente faveur de les installer dans un hôtel, où ils eurent chacun leur chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, celui où la Gestapo avait établi aussi son quartier général. L'obscur personnage que je suis eut ce même honneur. Une chambre particulière dans un hôtel, peut-on rêver traitement plus humain ? Et pourtant, croyez-moi, c'était pour nous appliquer une méthode plus raffinée, mais non pas plus humaine, qu'on nous logeait dans des chambres d'hôtel convenablement chauffées plutôt que dans des baraques glacées et trop pleines. Car la pression qu'on voulait exercer sur nous pour nous arracher des renseignements était d'une espèce plus subtile que celle des coups de bâton et autres tortures corporelles. On nous soumettait à l'isolement le plus raffiné qui se puisse imaginer. On ne nous faisait rien. On nous laissait seulement en face du néant. Car il est notoire qu'aucune chose au monde n'oppresse davantage l'âme humaine. En créant autour de chacun de nous un vide complet, en nous confinant dans une chambre hermétiquement fermée au monde extérieur, on usait d'un moyen de pression qui devait nous desserrer les lèvres plus sûrement que les coups et le froid. Au premier abord, la chambre qu'on m'assigna n'avait rien d'inconfortable. Elle possédait une porte, un lit, une chaise, une cuvette, une fenêtre grillagée. Mais la porte demeurait verrouillée nuit et jour. Il m'était interdit d'avoir un livre, un journal, du papier ou un crayon. Et la fenêtre s'ouvrait sur un mur. Autour de moi, c'était le néant. J'y étais tout entier plongé. On m'avait pris ma montre afin que je ne mesure plus le temps, mon crayon afin que je ne puisse rien écrire, mon couteau afin que je ne m'ouvre pas les veines. On me refusa même la légère griserie d'une cigarette. Je ne voyais aucune figure humaine, sauf celle du gardien qui avait ordre de ne pas m'adresser la parole et de ne répondre à aucune question. Je n'entendais jamais une voix humaine. Ce régime qui, jour et nuit, privait l'essence de tout aliment, me laissait seul, désespérément seul, en face de moi-même et de 4 ou 5 objets muets, la table, le lit, la fenêtre, la cuvette. Je vivais comme le plongeur sous sa cloche de verre dans ce noir océan de silence, mais un plongeur qui, pressant déjà que la corde qui le reliait au monde s'est rompue et qu'on ne le remontera jamais de ses profondeurs muettes. Je n'avais rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de moi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. J'allais et venais dans ma chambre et mes pensées allait et venait dans ma tête sans trêve, suivant le même mouvement. Mais si dépourvues de matière qu'elles paraissent, Les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui, faute de quoi elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attend quelque chose du matin au soir, mais il n'arrive rien. On attend, on recommence à attendre, il n'arrive rien. On attend. Les pensées tournent dans votre tête jusqu'à ce que les temps vous fassent mal. Il n'arrive toujours rien. On reste seul. Cela dura 15 jours pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. La guerre eût éclaté que je n'en aurais rien su. Le monde ne se composait plus pour moi que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une chaise, d'une cuvette, d'une fenêtre et de 4 murs sur lesquels je regardais fixement le même papier. Chaque ligne de son dessin mouvementé s'est gravée comme au burin dans mon cerveau tant je l'ai regardée.